poésie, peinture, aller-retour. Aujourd'hui, Pablo Picasso en vers et Federico Garcia Lorca en prose, avec Marie-Laure Bernadac, Andrew Lamquel et Carole Filière.
Compagnie des poètes, par Manu Farid.
Et c'est jusqu'à 16h.
4 janvier 36. Les tableaux sont des folles piquées au cœur, des bulles rayonnantes serrées par les yeux à la gorge, du coup de fouet carambolique battant des ailes autour du carré de son désir.
Bonjour à toutes et à tous. L'actualité des poésies aujourd'hui sera, disons, largement espagnole. Au sommaire, un Picasso mal connu, si cela était encore possible, et un Lorca, disons, inattendu. Qu'en est-il d'ailleurs des liens qui pouvaient unir ces deux-là, en tout cas jusqu'à la mort de Lorca, assassiné par les milices franquistes en 36. Je précise simplement qu'ils étaient contemporains, mais quand même pas tout à fait, hein, puisque l'un est né à Malaga en 81 et l'autre près de Grenade en 98. Hein. Sur ces éventuels liens entre les deux, alors je ne sais pas qui veut commencer, Carole Filière, Marie-Laure Bernadac, Andrew Lamquel.
Peut-être la spécialiste de Lorca, parce que du côté de Picasso, il était en France hein, à ce moment-là. Donc, je pensais avec Dali qu'il était très très lié. Et comme Picasso et Dali n'étaient pas très amis,
c'est le jalon en fait.
On n'a pas beaucoup de traces de correspondance ni de relations, hein, parce que Picasso avait vraiment quitté la France.
Oui, Dali est parti en France pour rencontrer Picasso, de toutes les façons. Et quand il est revenu, c'est là qu'il a transmis son savoir, ses connaissances à Lorca, puisque entre 26 et 27, ils avaient une relation extrêmement proche d'émulation artistique. Et Dali a joué ce rôle de médiateur, en fait. Mais Lorca connaissait très bien Picasso auparavant, parce que à la résidence des étudiants de Madrid, qui était un centre pour former une nouvelle élite intellectuels espagnols, intervenaient des artistes, des scientifiques et notamment des médiateurs qui venaient expliquer ce qui se passait dans le pays voisin convoité, la France.
Alors Lorca, dont vous traduisez, Carole Filière, une vingtaine de poèmes en prose, contes, petites nouvelles, disons acides ou cruels ou en tout cas ironiques, hein, qui paraissent aux éditions Bruno Doucet. Et Picasso, donc, que son musée parisien expose avec votre concours, Marie-Laure Bernadac et Andrew Lamquel. Il y est moins question des liens féconds entre l'artiste et les poètes, hein, ça on connaît, c'est un terrain qui a été bien arpenté, que de l'artiste en poète ou du poète en peintre. Globalement, entre 1935 et la fin des années 50, on y entend d'ailleurs dans la première salle de l'exposition ce petit bout qu'on vient d'écouter, dit par Robin Renucci, un poème qui pourrait dire justement ce caractère indissociable de la poésie et de la peinture chez Picasso. Andrew Lamquel.
Absolument. La poésie de Picasso est un dialogue constant avec le reste de son travail. Et il dit que les tableaux sont des
folles.
Folles, absolument. Ouais. Il y a beaucoup, à la fois, un côté dramatique, mais aussi beaucoup de joie et beaucoup d'allégresse dans les poèmes de Picasso. Donc il y a véritablement, effectivement, un dialogue entre les deux pratiques tout au long de son activité poétique.
Qu'est-ce que ce serait donc que ces tableaux qui seraient des folles piquées au cœur?
Je crois qu'on ne peut pas expliquer telle quelle l'explication, mais c'est ce que dit Andrew là, tout à fait vrai. Picasso avait dit qu'il était un poète qui a mal tourné et qu'on peut écrire une peinture à un mot comme on écrit peindre dans un poème. C'est ça, l'équivalence entre peinture et poésie est constante chez lui. On peut écrire une peinture à un mot comme on peut.
Bon, ben je vais vous laisser le mettre dans le bon sens.
Ouais. Pour lui, les deux sont très très liés. Donc les tableaux sont les fausses. Ça pourrait être un des portraits de femmes. On voit beaucoup de portraits de femmes dans les années 35-36. C'est qu'il passe de la peinture tout le temps à des personnages, à des figures. Il y a constamment une anthropomorphisation des choses, des objets. Donc le tableau peut parfois être une surface, mais parfois être une personne. Je veux dire, on passe tout le temps d'un registre humain, végétal, animal, chose, objet. Surtout, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a jamais de ponctuation dans la poésie de Picasso. C'est une phrase comme un flux gigantesque hein, qui ne s'arrête pas. Donc il faut en effet, il y a des tas de mots et de phrases et d'adjectifs qui s'accumulent. Et donc ces tableaux de son effort peuvent être des portraits de femmes, peuvent être beaucoup de choses.
Alors Picasso, publié par Gallimard hein, de son vivant, du moins ses pièces de théâtre et ses écrits. Picasso fait poète par André Breton dans un article assez fameux hein, paru dans les Cahiers d'art en décembre 1935. Picasso qui sera auteur, donc prolixe, bien que moins bien connu, hein, entre 35 et la fin des années 50. Mais finalement, Picasso, poète, publié pour l'essentiel en 89, hein, après sa mort. Comment considérer ce Picasso-là aujourd'hui? C'est-à-dire s'intéresser à la poésie de Picasso aujourd'hui. Est-ce que c'est une nouvelle façon de regarder l'ensemble de l'œuvre, plus qu'une façon de découvrir une œuvre poétique autonome.
Je pense que c'est vraiment essentiel de lire la poésie de Picasso. Certes, ça a été publié dans son ensemble qu'en 89, mais comme vous l'avez rappelé, il y avait déjà quelques publications. On ne peut pas comprendre l'œuvre ni l'homme sans lire ses poèmes. Donc là, il se trouve qu'il y a une actualité, mais en effet, on avait déjà la publication à 30 ans, on avait déjà fait une exposition il y a 30 ans. Que Androula avait vu arrivant de Chypre et c'est ce qu'il avait décidé à travailler sur la poésie de Picasso. Donc, il y avait une actualité en 89. Mais je crois que ça a rebuté beaucoup de gens parce que le livre est énorme, la poésie est indigeste, elle est complexe. Peu de personnes s'y sont plongées, mais dès qu'on creuse un petit peu ce labyrinthe de mots, de phrases, c'est une clé pour comprendre de nombreux tableaux, pour comprendre sa vie privée, sa vie personnelle. Je crois qu'on ne peut pas comprendre Picasso sans rentrer dans sa poésie.
Androula, surtout, il y a une très grande quantité quand même des poèmes. Donc, on compte plus de 340 poèmes. Si on les publie individuellement dans des collections, on aurait 10 recueils de poésie de Picasso, plus 3 pièces de théâtre. Donc, c'est une poésie qui est prolifique. C'est une poésie qui se métamorphose. Donc, nous avons lu, écouté un poème très court, mais il y a des poèmes très longs, des poèmes sur 30 pages sans des ponctuation, poèmes des poèmes fleuves. Picasso écrit quelque chose, il revient sur le geste inaugural pour reprendre, modifier, rajouter, raturer. Donc il travaille aussi bien avec les sens que aussi avec la graphie du poème. Donc ses manuscrits sont des véritables dessins, même quand il rature. Donc on est.
Et dans... Dieu sait qu'il rature. Hein. Parfois, après, c'est presque l'ensemble des vers qui sont raturés.
Tout à fait. Et parfois, il y a cette exploitation esthétique de la rature, mais qui n'est pas intentionnelle. Vraiment, dans sa façon d'écrire, il est là, il revient. Et c'est vrai que comme il écrit très souvent sur du papier d'arche à l'encre de Chine, cela fait des dessins. Donc, c'est vraiment une poésie calligraphiée sans être vraiment une calligraphie. Elle est belle sans être une calligraphie, parce que parfois, c'est une écriture pas tout à fait lisible. Donc parfois, il écrit gros, parfois il mélange les styles et les écritures sur le même support. Et donc, on peut voir une écriture complètement différente sur le papier d'arche que sur un petit carnet de poche où il griffonne des poèmes, ou sur du papier hygiénique, par exemple.
Un bout de papier, un bout d'enveloppe, un bout de journal, tous
les supports.
Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Disons pour une part, c'est-à-dire ce que la poésie, au fond, la lecture de la poésie de Picasso nous permet pour entrer dans l'univers ou dans l'œuvre ou comprendre l'univers de Picasso. Mais sur la question de l'œuvre poétique à proprement parler, en soi, d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une œuvre? Est-ce que ça forme œuvre que ce corpus de 340, 350 ou alors est-ce qu'il faut vraiment les regarder simplement à l'aune de l'ensemble de l'œuvre de Picasso? Je pose la question aussi parce que Breton, par exemple, alors c'est lui qui va signer d'une certaine façon l'acte de naissance de poète de Picasso en 35, hein, dans ce fameux article. Léris va le comparer à Joyce, je crois, mais d'autres seront moins tendres avec Picasso. Je pense par exemple à Gertrude Stein. Comment est-ce qu'il faut regarder l'œuvre poétique en soi ?
Ça, c'est en effet assez complexe.
Vous avez dit indigeste.
Oui, d'abord. Picasso a dit, je donne une caisse de bouteille de champagne à qui lira tous mes poèmes. Donc, je crois qu'il était très conscient que autant il maîtrisait la forme picturale, autant c'est pas son médium, même s'il use, abuse, l'utilise sous toutes ses formes, les variations, invente, triture, fait des inventions formelles et littéraires extraordinaires. Mais elle est difficile à situer. C'est vrai que, comme des grands poètes comme Alberti, Léris, qui ont bien sûr Breton pour d'autres raisons, puisqu'ils voulaient le ranger dans la poésie surréaliste, alors que Picasso a bien dit que c'était pas de la poésie automatique vraiment. C'est aussi Góngora, hein, c'est toute la tradition espagnole, hein, il faut aussi le tirer, donc il est un peu inclassable. Alors, la difficulté, c'est que il y a du surréalisme, il y a du post-surréalisme, il y a du Jarry, il y a aussi beaucoup de Jarry, il y a quand même beaucoup d'influence, un petit peu comme s'il avait pris un panthéon espagnol mélangé avec tous les poètes avec qui il était lié, et le milieu surréaliste, et finalement, c'est sa propre poésie. Ça ressemble à rien d'autre qu'à du Picasso. Donc, c'est pour ça que c'est assez inclassable, mais je pense que ça a une très grande valeur littéraire, pas uniquement parce que ça vient de Picasso, mais parce qu'il y a des inventions tout le temps. Puisque vous vouliez qu'on élimine le côté formel, mais tout est lié. Ce qui est très compliqué, c'est un cas à part. On peut pas comparer à Michaud, on peut comparer à personne, je veux dire, parce qu'il y a vraiment un statut à la fois sur le plan formel et sur le plan du contenu. Breton, ça vous l'avez dit, a dit que c'était un journal sensoriel et sentimental. C'est aussi un journal intime, hein. Donc il y a des formes en vers, des formes en prose. Il y a une forme de journal. Donc, entre tous ces genres, le journal, les vers, la prose, l'invention formelle, le collage, plus le lyrisme baroque, très espagnol, je crois que c'est très difficile à situer. Mais pour moi, c'est une véritable œuvre littéraire.
Absolument. Picasso est un écrivain, mais comme il disait, pas comme les autres. Ah ouais. C'est-à-dire, tout d'ailleurs, comme il ne se définissait pas uniquement comme peintre. Il disait à un moment donné, de façon provocative, je ne suis pas peintre. Et que Miro sait parler de son travail parce qu'il est peintre et moi je ne le suis pas. Et alors, c'est à ce moment-là justement où il avait dit que je suis un poète qui a mal tourné. Et donc il se considérait comme un écrivain, mais pas comme les autres. Justement parce que le travail plastique est un constant dialogue, un dialogue constant avec son écriture. Et cette écriture rassemble beaucoup, prend tout, je dirais, des procédés de sa peinture. On a le côté rhizomatique de son travail. Au lieu, comme il disait, de passer 100 jours sur un tableau, il préférait faire 100 tableaux. C'est exactement la même chose avec la poésie. Donc il y a ce côté rhizomatique de l'écriture, il y a la variation. Donc, il varie les phrases, il joue avec les mots, il utilise les mots presque comme des choses. Donc, ce sont les choses qui racontent l'histoire dans le poème. Donc, il est un véritable écrivain, mais pas comme les autres, avec une œuvre qui dialogue vraiment, non seulement avec sa propre peinture, mais avec la peinture et l'écriture de son temps.
Alors, ce qu'on voit bien dans l'exposition, évidemment, ce sont les poèmes, mais pas seulement, qui courent comme ça sur une vingtaine d'années, donc des centaines de manuscrits, des tapuscrits. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est sur carnet, sur feuilles, sur papier d'arche, sur des bouts d'enveloppe, sur des bouts de journaux, des petits carnets, des grands, des petits, des morceaux. Il commence cette activité-là véritablement, il est déjà assez âgé, enfin âgé pour Picasso, c'est un peu compliqué à dire, mais il a 54 ans, donc en 35, et il écrit ses tout premiers poèmes à un moment de crise conjugale, hein, c'est le moment où il se sépare de Olga, un moment où la peinture ne vient pas, ou en tout cas vient mal, hein, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il laisse sur son chevalet à ce moment-là?
Alors, les derniers tableaux, c'est très intéressant, on a montré des tableaux de février 35, juste avant, puisque le premier grand poème fleuve, qui est en espagnol, sur des trentaines de pages, c'est 18 avril 35. Et on s'aperçoit vraiment qu'entre avril 35 et fin 35, il n'y a pas de tableau. On a vérifié partout, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est vraiment consacré à l'écriture. Et après, ça continue en 36, quand il part avec Marie-Thérèse, donc sa nouvelle compagne, dont il vient d'avoir un enfant, Maya, en 35. Pour expliquer la crise, c'est vrai que pratiquement, il ne peut plus rentrer dans son atelier, parce qu'il y a la succession, la séparation des biens au moment de la séparation avec Olga, et c'est la pire période de sa vie, donc ce qui explique aussi qu'il n'arrive plus à peindre, parce que Marie-Thérèse est enceinte, et il n'a pas accès à son atelier à la Boétie. Le grand atelier, tout est séquestré. Donc il s'enferme avec Sabartès, il fait venir le fameux Jaime Sabartès à cette époque-là, qui servira de secrétaire, qui va lui taper tous ses textes. Et du coup, comme c'est un hyperactif créatif, il se lance dans l'écriture complètement, il se jette dans l'écriture. Et après, ce qui est magnifique, on a l'impression que c'est l'écriture qui lui permet de repeindre. Parce que début 36, on voit ces magnifiques portraits de Marie-Thérèse, à la fois très réaliste et classique, mais en même temps comme une pelote de fil de fer. C'est en décrivant, en dessinant, que la peinture revient. Donc, il y a vraiment cet aller-retour.
Oui, pas oublier, rajouter quelque chose, Androula Mikhaïl.
C'est vrai, c'est bien de rappeler les circonstances, effectivement, mais le fait que Picasso continue quand même pendant 25 ans, peut-être avec quelques interruptions, et qu'il est vraiment amoureux de langage, on le voit. Il ne quitte jamais, en fait, le travail avec la langue. Donc, il ne faut pas considérer que Picasso commence uniquement à écrire, uniquement parce qu'il a des problèmes.
Parce qu'il aime. Non, mais l'écriture est déjà là avant.
Tout à fait. Ça précipite peut-être l'envie, le désir de se mettre à l'écriture, mais ce n'est pas une écriture de circonstances.
Vous l'avez dit, ce tout premier poème, alors je ne sais pas, peut-être qu'on a un peu fétichisé, alors ce premier poème, peut-être qu'il y avait des choses déjà avant, mais le tout premier, en 35, lui vient en espagnol, puis très vite le français, puis parfois les deux, alors il va écrire un petit peu plus en français qu'en espagnol, mais parfois les deux, parfois un même poème dans les deux langues. Et le 28 octobre 35, il écrit « Si je pense dans une langue et j'écris, le chien court derrière le livre dans le bois et je veux le traduire dans une autre, je dois dire « La table en bois blanc enfonce ses pattes dans le sable et meurt presque de peur de se savoir si sotte ». C'est pas facile à dire. Est-ce que ça voudrait dire que à chaque langue, sa nature, sa logique de poème, au fond, à quel moment est-ce qu'il aurait besoin de l'espagnol et à quel moment il aurait besoin du français ? Dit de façon vraiment très concrète.
C'est assez compliqué. Le problème de la traduction, on a beaucoup travaillé avec une universitaire de Barcelone sur les problèmes de traduction parce qu'elle retraduit justement plusieurs pièces de théâtre. Bon, là, c'est évidemment un jeu de mots, c'est-à-dire que c'est intraduisible. C'est-à-dire qu'il est très content de maîtriser les deux langues et il joue énormément des jeux de mots qui peut, il a une vraie maîtrise du français, absolument incroyable, parce qu'il a une connaissance d'un vocabulaire incroyable, très précis, bien sûr, aucune grammaire, aucune orthographe, mais une connaissance du vocabulaire énorme et, il est en France, hein, donc l'espagnol, c'est à chaque fois plutôt des souvenirs d'enfance. C'est pas un hasard si c'est au début et à la fin. Hein. Le dernier texte de 59 s'appelle L'enterrement du comte d'Orgaz, donc c'est un hommage, bien sûr, à Greco, à l'Espagne. C'est une sorte d'enterrement, et c'est en espagnol, ce qui n'est pas un hasard. Et sinon, pendant la guerre, alors là aussi l'écriture est parfois, comme on a dit, un journal intime, elle est dans les carnets. Hein. Il y a soit le très beau statut de la feuille du papier d'arche, donc qui est le dessin, sculpture, enfin qui est vraiment le travail plastique. Soit il y a quand même beaucoup, beaucoup de textes qui sont dans des carnets, mélangés avec des dessins. Et c'est vrai que pendant la guerre, il y a beaucoup d'espagnol. Hein. Pendant la guerre civile, il y a beaucoup en espagnol. Donc je crois que c'est souvent lié à des choses intimes qui reviennent. C'est que l'Espagne remonte en lui, donc cette langue revient assez naturellement. Sinon, comme il est en France, qu'il côtoie des poètes et qu'il écrit en français, c'est assez très normal.
Et en fait, ce qu'on remarque quand on voit l'ensemble de l'œuvre, c'est que le français, comme l'a dit Marie-Laure, que Picasso maîtrise très bien, est vraiment la langue d'expérimentation. Le français lui sert un tout petit peu comme un travail d'écriture fleuve, où il on pourrait dire pas écriture automatique, mais vraiment plus spontanée. Et en français, il expérimente, il fait des variations, il joue avec la langue. Et comme le français n'était pas sa langue, il pouvait prendre encore plus de liberté, je dirais, pour tordre le langage et arriver à dire, à un moment donné, qu'il fallait avoir une parfaite connaissance de la sémantique et des règles, mais écrire mal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'écriture de Picasso. Oui, quand il écrit mal, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas les règles, mais que...
C'est pour les transgresser toujours.
Absolument. Il transgresse la règle et c'est ça vraiment qui fait que c'est un très grand poète, je dirais.
Alors on écoute l'un d'eux justement.
16 septembre 1941. Des poils sur les jambes, sur les bras, sur le cul et le con. Des veines, du sang, des pets. De l'urine, de la viande, de la graisse, des tendons, et le ventre plein d'os. Sa mère, sa maman, elle regardait l'enfant de l'un et l'autre, elle l'aimait. Lui donnait la soupe de ses seins, le lavait le matin et le soir, le peignait et lui cousait ses robes, allait avec lui au cinéma, au théâtre, à la mer, et lui donnait des gifles. « Maman, maman, j'ai fini, maman, donne-moi à boire, maman, j'ai soif, maman, j'ai faim, maman, j'ai sommeil. Veux-tu que je te mouche? As-tu chaud? As-tu froid? Dodo, pipi, caca. Ah, que les ailes du cheval sont lourdes à porter, dit l'un, déposant le paquet sur l'évier. Ni la pluie, ni le vent, ni le beau temps, ni la neige, et encore vigne à l'automne. »
Bizarre.
Alors ça, c'est un poème, donc c'est toujours la voix de Robin Renucci, hein, qu'on peut entendre tout au long de l'exposition Musée Picasso. Celui-ci date du 16 septembre 1941. Peut-être juste un mot déjà sur cette façon qu'il a de dater chacun de ses poèmes, de les dater tous, comme on daterait un tableau, et on sait qu'il datait très scrupuleusement ces Absolument. Tableaux. C'est le cas des poèmes aussi, y compris dans le moindre petit carnet, c'est vraiment à chaque fois, ou même dans la moindre étape, j'imagine, de poèmes, on voit qu'à chaque fois, tout est daté. En quoi est-ce que ça nous renseigne, ça, justement, cette façon qu'il a de dater écriture comme peinture?
Picasso avait dit qu'il datait tout ce qu'il faisait, parce que ça pouvait déjà servir à quelqu'un plus tard. Il pensait déjà son œuvre comme une archive, je dirais. Et surtout, il voulait qu'on comprenne bien, comme il le disait très précisément, par où sa pensée est passée pour réaliser, comme il disait, son rêve. C'est-à-dire, c'était important de voir la série, de voir la variation, voir que telle œuvre a été faite avant une autre. Donc, la série temporelle, vraiment très importante pour Picasso, pour qu'on puisse comprendre le mouvement, en fait, de la peinture. C'est ça qui était important chez lui. Du coup, il datait tout. Il mettait aussi, il notait l'heure même de l'écriture. Parfois, il écrivait à 1h du matin, aujourd'hui, telle date, à 1h du matin. Il rajoutait des choses, il rayait 1h du matin, il mettait 2h du matin. Donc, c'est vraiment une écriture presque minutée, on pourrait dire, parce que Picasso l'incarne, il est présent dans l'écriture. Quand on lit les poèmes, on sent sa présence.
Il parle de sa main, des pauvres de moi qui écrit.
Voilà, il parle de sa main, il parle de lui en train d'écrire, il parle de son environnement. Donc il commence à parler d'un objet qui est dans la chambre à coucher et il peut partir vers autre chose. Donc par rapport au poème qu'on vient d'écouter, il y a justement des choses les plus banales du quotidien qui peuvent donner lieu plus tard à quelque chose d'un peu plus lyrique, plus poétique, quelque chose qui sort en fait du quotidien. Mais c'est vraiment la façon de décrire de Picasso, de mélanger en fait à la fois le trivial, le quotidien, avec les plus importants et les plus nobles.
Ce sont des poèmes pour les yeux ou pour les oreilles, hein?
Ce sont
pour les deux.
Pour les deux.
Pour les deux. Pour les deux. Oui, parce que d'ailleurs, il aimait les lire, hein. C'est une poésie orale, hein, qui se fait dans la bouche. Il était très proche de la poésie orale. Donc, quand il lisait dans ses soirées à Gertrude Stein, dont on a parlé, ou à ses amis, il fallait les dire, hein, les dire avec ça. Et bien sûr, visuel, ça, on en a parlé, mais c'est sûr que c'est aussi une poésie orale. Et aussi, ce qui est assez complexe, on l'a vu dans ce poème, qui n'est sûrement pas un des meilleurs représentatifs de sa poésie.
On va l'entendre.
Ses ruptures comme ça de registre quotidien, un autre registre. Il met tout ce qu'il aime et tout ce qu'il ressent. Il dit dans mes tableaux, je mets tout ce que j'aime. Tant pis, les choses n'ont qu'à se débrouiller entre elles. Il y a aussi cette idée, puisque ce qui compte, c'est en effet le mouvement de la pensée et jamais une chose arrêtée. Donc pour le lecteur, ce qui est assez difficile, c'est qu'il faut qu'il aille piocher des pépites, des trésors, parfois sauter des passages, retrouver quelque chose. C'est comme, c'est vrai que tout lire d'un coup, parfois il y a des chutes sans intérêt, on pourrait dire, ou moins intéressantes. Mais j'allais dire, c'est presque la même chose dans son œuvre picturale. Il y a énormément de tableaux pour un ou deux magnifiques. Il y a des variations, il y a des études, il y a des tableaux ratés. Alors évidemment, ça se voit moins dans les tableaux parce qu'on sort un objet. Mais c'est le même processus créatif. C'est-à-dire, je mets tout ce à quoi je pense, à l'intérieur, à l'extérieur, dans le monde, tout ça en même temps, dans le même temps.
De la même manière, et donc c'est alors par rapport à ce que vous dites, Marie-Laure Bernada, qu'on va retrouver effectivement à l'intérieur des poèmes tous les motifs et les thèmes qui vont irriguer sa peinture aussi. Hein, c'est-à-dire il va y être question de corrida,
la nourriture,
d'odeur, de crucifixion, de rituels, de sacrifices, de musique, de nourriture beaucoup particulièrement essentiel. D'Andalousie. Sans doute un peu plus que dans sa peinture. Et vous disiez qu'il était très présent dans ses poèmes. Il est très présent aussi par la main, c'est-à-dire dans la graphie même de ses poèmes, hein, dans l'écriture. Et ça frappe quand on se promène dans l'exposition. Ce qui frappe justement, c'est la multiplicité de ses écritures. Alors en dehors des calligraphies, parce que ça c'est encore peut-être encore autre chose. Mais parfois la graphie va être très ronde, parfois bien rangée, parfois elle va prendre toute la place, parfois elle va être très aiguë, très raturée. Alors ça peut être à la plume, ça peut être très épais ou en capital. Ça varie en permanence, ça change tout le temps. Qu'est-ce que ces écritures-là nous apprennent? Que l'écriture est d'abord un dessin pour Picasso?
Sans doute. Et le fait aussi que chaque support l'oblige à un autre geste d'écriture. Que ça soit parfois
le médium aussi,
crayon. Le médium, absolument. Donc le médium et le support, c'est parfois un geste d'agression, comme avec la gravure, parce qu'il grave beaucoup ses poèmes également, ou un geste de caresse sur le papier. Donc il y a vraiment ce côté charnel, on le sent quand même quand on est en phase de manuscrit de Picasso. Parce qu'effectivement, au crayon papier sur un petit carnet, on n'a pas le même impact aussi visuel, mais aussi le côté charnel de l'écriture qui est celle des gravures, par exemple.
Oui, en effet, l'écriture change tout le temps. Et ce qui est amusant, c'est qu'Éluard avait fait une analyse graphologique assez amusante, qui finissait par « il aime intensément, il tue ce qu'il aime », ce qui malheureusement s'est révélé assez vrai. Et nous, on a refait faire dans l'ABCDR par une graphologue d'aujourd'hui, qui n'avait pas le même lien avec Picasso, une analyse qui aussi dit des choses très justes. Les graphologues arrivent à repérer, malgré cette diversité d'écriture, une constante dans certaines formes. Et avec Christine, on a fait cet énorme travail de déchiffrage, parce que quand on a découvert, dans la succession Picasso, l'ensemble des poèmes, certains étaient heureusement déjà tapé à la machine par sa Barthès, donc on a juste vérifié, mais beaucoup n'avaient jamais été transcrits. Donc on a passé beaucoup de temps à déchiffrer ces poèmes, et on s'est aperçu que finalement, une fois qu'on avait la clé, c'était assez lisible, hein, malgré l'apparence désordre, c'était très lisible.
Quelles étaient ces constantes alors que vous évoquiez justement quant
les
à la graphie?
Les constantes de thème ou les constantes
non, de... quant à la, quant à l'écriture, à la graphie de Picasso qui avait été débusquée.
Moi, je suis pas graphologue, il faudrait que je l'aie sous la main pour vous en donner.
Alors c'est dans la
BCDR. BCDR, oui.
La BCDR qui est donc le catalogue de l'exposition.
Elle analyse pas mal de lettres qui se retrouvent toujours de la même façon, donc ça nous permet de nous repérer quand ça passe de petite écriture fine et propre à grande écriture très déliée. Il y a toujours la même forme, et je crois que les graphologues le voient immédiatement. Hein.
Alors on va peut-être écouter justement, alors peut-être que celui-là sera plus pertinent, écouter un extrait de poème, parce que là pour le coup c'est un poème fleuve, un très long poème où on entendra peut-être un peu mieux à quel point il est difficile de s'orienter dans le flux du poème de Picasso.
Fandango de chouette, marinade d'épées, de poulpe de mauvais augure, lavette de poils, de tonsure, debout au milieu de la poêle. À poil sur les oublis du sorbet de morue, frite dans la gale de son cœur de bœuf. La bouche pleine de la gelée de punaise de ses paroles. Grelot du plat d'escargot tressant des tripes, auriculaire en érection, ni figue ni raisin. Commedia dell'arte de mal tisser et de teindre des nuages. Produit de beauté du tombereau à ordures. Rapte de las meninas en larmes, en larmoiement. À l'épaule, le cercueil rempli de saucisses et de bouches. La rage tordant le dessin de l'ombre qui le fouette, les dents clouées dans le sable, et le cheval ouvert de part en part au soleil qui le lie aux mouches, qui faufile au nœud du filet plein d'anchois la fusée de lys, lanterne de poux où se trouve le chien, nœud de rat et cachette du palais de vieux chiffon. Les drapeaux que l'on frit dans la poêle se contordent dans le noir de la sauce de l'encre, répandue dans les gouttes de sang qui le fusillent. La rue monte au nu, attaché par les pieds à la mer de cire qui pourrit ses entrailles, et le voile qui la couvre chante et danse, fou de chagrin.
Alors certains ont, alors c'est un extrait, hein, certains ont comparé l'écriture de Picasso à des plantes grimpantes. On comprend un peu mieux quand on entend ça. On entend aussi cette absence de ponctuation. Est-ce que ce choix-là fait programme d'une certaine manière?
Oui, je crois que c'est un poème très très. Je vous pensais à Léo Carpentier qui a parlé de poésie Iliade.
Ouais. Absolument.
Un des autres poètes qui a parlé de la poésie de Picasso.
Celui-là
est très intéressant dans le contexte parce qu'on voit bien le mélange entre la nourriture, la pourriture, fusillé, on voit la guerre, on voit, il y a plein de petits éléments comme ça qui nous permettent de situer un petit peu le contexte du poème. Toute façon, et c'est une période sombre, on voit aussi l'évolution entre les poèmes de 35, 36 et ceux de 37 à 39. On sait très bien dans quelle période on est, on retrouve les ailes brisées, l'aigle qui vomit ses ailes. Enfin, il y a beaucoup de métaphores qui font allusion au bombardement, à la guerre, à la cruauté, à la violence, aux cris. Donc ça, on retrouve ça à certaines périodes. Et là, on voit le mélange, la sauce. Moi, j'avais il y a longtemps fait un texte qui s'appelait « La peinture à l'estomac ». C'est que tout est mélangé, c'est un espèce de grand gazpacho, ça, la poésie. C'est-à-dire qu'une auberge espagnole, il mélange tout. Il mélange vraiment tous les ingrédients. Donc, il y a plein de nourriture, de scatologie. Mais en même temps, si on ressort comme ça des éléments, on voit assez bien à quoi ça fait allusion.
Androula Michael.
Tout à fait. Parce que Picasso ne nomme pas les choses directement dans sa poésie. Donc, pour parler de Franco, il ne va pas le nommer, mais il va utiliser des métaphores, justement des nourritures complètement indigestes, donc une morue de une glace absorbée de morue, frites, des choses vraiment qui, ou une soupe de clous, donc des choses qui donnent envie de vomir.
Dégoûtante.
Donc, il a une façon de détourner les choses, de parler par signe. Et donc, cette nourriture immangeable, c'est un signe pour Franco. Et on voit aussi dans ce poème, justement, ce rythme complètement précipité. C'est un peu comme un pas de danse. On est entraîné.
Fandango. Oui, la danse est très présente.
Fandango de chouette morte. Hein,
donc, on est entraîné. Par cette écriture, par cette lecture. C'est pour ça d'ailleurs que parfois la lecture est complexe, parce qu'on ne peut pas s'arrêter quand on lit. Donc il faut faire constamment des allers-retours en arrière pour comprendre, repartir autrement. Donc il y a cette idée justement où tout est lié et ça fait un rhizome, ça fait vraiment quelque chose qui ne pas s'arrêter.
Vous avez rassemblé, hein, justement, dans l'exposition, il y a une pièce qui rassemble cette période-là, hein, qui est titrée Les années sordides, où on voit bien, effectivement, ce que la guerre va faire à sa poésie, et peut-être même ce que sa poésie va faire à la guerre. On voit aussi un nouveau vocabulaire qui apparaît, effectivement, les clous, mais également les draps, les voiles noires, les barbelés,
le deuil,
les flammes.
La corrida de deuil, il y a un texte qui s'appelle La corrida de deuil.
Absolument. De façon générale, est-ce que on pourrait suivre l'évolution de l'écriture de Picasso de façon, disons, à peu près parallèle à l'évolution plastique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une coïncidence entre les ruptures et les évolutions de son écriture et celle de sa peinture?
Oui, c'est des voies parallèles, hein. Il y a vraiment des passages tout le temps. En tout cas, sur le plan biographique, on peut très très bien suivre l'évolution, parce que 36, c'est quand même... que, en gros, des poèmes lyriques d'amour à Marie-Thérèse, hein, à peu près. Bon, 35, à part ce grand poème en espagnol, les années de guerre, il y a vraiment une thématique très particulière. Mais il y a en même temps les thèmes qui traversent toute la période de 35 à 59, qui sont le taureau, le cheval, le minotaure et tous les mets et ingrédients possibles, plus la musique dont on n'a pas parlé, le chant. Tout ce qui est évocation du rythme, de la musique, de la guitare, et tous les souvenirs d'Espagne. Dès qu'il parle d'Andalousie, de Castagnette, de Fandango, il y a aussi vraiment l'Espagne qui est présente. Mais ça, c'est la sauce générale. Mais après, il y a en effet une évolution, pas une évolution de la façon d'écrire, hein, parce qu'en gros, c'est un peu toujours le même procédé. La rupture, je dirais, elle est dans les pièces de théâtre. Quand tout d'un coup, il s'amuse à faire des personnages, les quatre petites filles, le désir attrapé par la queue, là, on est vraiment dans une autre écriture, parce que Il y a des personnages, je dirais pas que c'est une écriture théâtrale, ça reste toujours de la poésie, c'est pas non plus du théâtre, c'est aussi un théâtre impossible, un théâtre de l'absurde. Ça, Andrea pourra en parler. Mais le reste des poèmes, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence entre ceux de 35 et ceux de 59. À part les thèmes qui sont différents.
Oui, peut-être parfois dans les supports. On voit par exemple, et on les montre dans la dernière salle de l'exposition, il écrit par exemple le manuscrit de quatre petites filles entièrement en rouge, avec quelques notations en bleu, et c'est au même moment où il va illustrer, entre guillemets, évidemment, le chant de mort de Reverdy en rouge. Donc il y a des rappels, il y a des dialogues encore féconds entre l'un et l'autre. Donc on est frappé par cette similitude. En fait, de cette couleur rouge qui migre de champ de mort vers les quatre petites filles et vice-versa.
Et c'est vrai, dans les années 50, ils sont souvent en couleur. Il y a un poème dédié à Velázquez qui est en couleur.
Tout à fait.
Et le dernier, l'enterrement, est aussi en couleur. Hein. Enfin, noir avec des annotations rouge et bleu.
De toute façon, ce dialogue est là en permanence, hein, dans toute l'exposition. C'est-à-dire, parfois on voit bien que le dessin va pousser à l'écriture et parfois l'écriture va pousser à la peinture.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
On aimerait bien en entendre encore un petit peu, surtout que c'est Lorca qu'on entend au piano, Nana de Sevilla, donc c'est Federico Garcia Lorca au piano et au texte, et puis la danseuse et chanteuse de flamenco, la Argentinita à la voix en 31. Un choix vôtre, Carole Filière, bien qu'il soit assez peu question de musique dans la vingtaine de poèmes en prose et nouvelles que vous traduisez pour les éditions Bruno Doucet. Commencer par la musique pour parler de Lorca, c'est commencer par quoi ? Et je dis ça parce que, au fond, c'est précisément ce que vous ne voulez pas aborder dans ce recueil. C'est-à-dire, alors là, je schématise un petit peu, mais en tout cas, le mythe du poète gitan.
Oui, alors j'ai choisi cet extrait pour justement parler de Lorca performeur. Lorca qui se met en scène, Lorca qui vient parler de ses textes, qui les explique. Il était l'auteur de conférences récitales, et il essayait toujours de donner quelques clés, non de compréhension, mais de non-compréhension de ses textes. Et c'est ce qui manque en fait pour ses poèmes en prose. Nous n'avons pas ce texte d'accompagnement. Et lorsque j'ai fait la sélection des textes à traduire, il se trouve qu'il y en a qui sont plus programmatiques que d'autres. Et dans l'édition que nous avons montée avec Bruno Doucet, nous avons fait en sorte que la structure du recueil reflète ce programme et que les textes internes, en fait, questionnent ces programmes.
Alors je dis, on va revenir à cette question quand même, de tous ces Lorca qui recouvrent le Lorca dont vous voulez parler, Carole Filière. Je disais peu question de musique, hein, dans ce recueil, Une colombe si cruelle, hein, qui paraît aux éditions Bruno Doucet. Il faudrait peut-être quand même évoquer cette nouvelle extraordinaire. Moi, je dois dire que je n'arrête pas de la relire depuis, qui s'appelle donc Histoire de ce coq, qui met en scène un grenadin, Don Alambro, en 1830. Don Alambro et son coq, dont le chant est emprisonné, le chant du coq, hein, emprisonné par le métier à tisser d'une brodeuse. Alors, la nouvelle est bien plus longue que ça, parle de plein d'autres choses, y compris de grenades, mais aussi de cette affaire de coq et de métamorphose. Et il y en a bien d'autres, des métamorphoses, dans les textes choisis. Qu'est-ce que ce mouvement-là, celui de la métamorphose et de la métamorphose animale, parce qu'il en est question aussi avec le papillon, avec plein d'autres animaux dans ses recueils, qu'est-ce qu'elle exprime hein, pour Lorca? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là?
Alors, dans les textes dont vous parlez là, celui-là de Histoire de ce coq est un texte de circonstance qui a été rédigé pour la publication de une revue d'avant-garde, Gaio, le coq. Et ce texte a été rédigé en réponse, dialogue, un petit peu provocation aux frères d'Ali. Donc on peut l'analyser comme ça, mais les métamorphoses chez Lorca, c'est aussi sa théorie de l'image. Il faut peut-être repenser au fait que les années 20 en Espagne sont nourries par un débat très profond sur l'image. Alors tout est passé de France, hein, Tréamont, Reverdy, des grands courants comme le créationnisme par exemple, ont travaillé ça en Espagne. Et Lorca, ce que lui nous explique, c'est que l'image en fait est un changement de costume, un cambio de traje, c'est une métamorphose. Et le choix de la prose n'est pas du tout anodin. Ici pour inscrire ces images dans une nouvelle voie transgressive, provocatrice, parce que la prose c'est cette forme sans forme, l'informe, le protéique si vous voulez, protéiforme, qui lui permet d'explorer ce qui pour lui, il l'écrit en 27, est une nouvelle voie, une voie de nouvelle spiritualité. Alors Lorca est malin parce que il s'approprie les codes d'Ali. À l'époque, hein, qui le pousse à aller vers le surréalisme et qui va critiquer très vertement son Romancero Gitano, qui a été traduit par Les Complaintes Gitanes. Lorca, ce qu'il fait quand il dit qu'il écrit dans une nouvelle voie, qui est celle de la nouvelle spiritualité, il cite en fait Baudelaire. Baudelaire, en 1855, qui parlait exactement de la même façon de ses propres poèmes en prose.
Qu'est-ce qui se joue alors entre ces deux-là? Parce que en quelques minutes, Dali est revenu déjà plusieurs fois. L'ensemble des textes ne sont pas forcément en dette avec Dali. Hein. Ça concerne vraiment quelques-uns des textes que vous avez rassemblés dans ce recueil. Mais on voit bien effectivement qu'il y a tout un jeu. Il y a parfois un rapport de force et un jeu de réponse ou de contre-réponse ou de contre-poème avec Dali. Qu'est-ce qui se joue entre deux, à ce moment-là, donc on doit être dans les années 27.
On est en 1927 pour les premiers textes qui suivent les deux premiers du recueil, qui sont le programme, si vous voulez. Il y a plusieurs niveaux dans cette relation. Il y a la relation amoureuse, amicale, assez violente de cette époque-là, puisqu'au cours de l'été, Lorca et Dali passent cet été ensemble à Cadaqués. Ils ont beaucoup d'intimité et Dali repoussera Lorca. Lorca est un éternel amoureux éconduit. Et on trouve des traces de ces amours malheureuses hein, dans les textes que j'ai pu traduire. Mais un autre niveau de lecture, si vous voulez, c'est l'émulation artistique et le dialogue et la question du choix de la voie esthétique à ce moment-là. Et alors que Dali fait le choix d'une rupture totale et d'un engagement fou dans le surréalisme, il a des textes très précis à l'époque comme la Sainte Objectivité, et il va utiliser la figure de Saint Sébastien, Lorca, lui, puise toujours dans la tradition et s'émancipe en réinvestissant, si vous voulez, la tradition espagnole, par exemple, le baroque. Il va puiser beaucoup chez Góngora. Et il va essayer, dans ces textes-là, que j'ai pu traduire, de montrer que c'est possible. Et donc le premier dialogue, le dialogue qu'on a entre l'ami et le poète, le premier des textes, n'est pas forcément à lire en identifiant tout de suite le poète comme Lorca et l'ami comme Dali. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a un jeu d'emprunt et de dialogisme interne qui fait que Lorca tire son épingle du jeu, lui qui aimait tant les épingles, hein, puisqu'il veut que le poème vienne piquer, frapper au cœur. J'ai entendu sur Picasso un petit peu les mêmes expressions expression, et c'est exactement ça. Peut-être qu'il y a la banderie espagnole aussi derrière. Mais c'était l'objectif du poème, de blesser et de frapper droit au cœur.
Voire d'écrire des poèmes à se couper les veines.
À se couper les veines, puisque c'est aussi un acte presque suicidaire, à ce moment-là, d'écrire dans cette voie-là.
Pour quelle raison ?
C'est-à-dire que c'est associé à un... C'est ça, il l'écrit exactement, c'est une poésie à s'ouvrir les veines. Il s'ouvre les veines parce qu'il y a tout un champ métaphorique, en fait, de la rupture, qui est là pour marquer le... pour marquer, si vous voulez, une rupture totale du point de vue esthétique. C'est-à-dire que si je coupe des mains, ce qu'il a, Dali a pu croire que c'est lui qui lui avait appris ça depuis Picasso, mais Lorca l'écrivait avant ça. Si je fais couler le sang dans mes textes, en fait, c'est parce que je rejette la poésie ancienne et je suis en train de proposer une poésie nouvelle. Il y a une autre chose derrière, qui est que le sang qui coule, le sang qui est versé, ce sont... principalement des thèmes qui sont liés à la tristesse profonde qu'on va trouver dans ces textes-là, par exemple. C'est aussi des larmes de sang. Et c'est aussi la continuité et le souffle qu'on trouve dans la prose.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire ? Alors, soit un extrait, soit un texte. Je vous laisse choisir.
Alors, j'ai parlé de sang. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être parler...
Il y en a pas mal de sang, par ailleurs,
dans plusieurs textes. Si vous voulez qu'on lise un texte sur le sang, je vous lirai La décollation des innocents.
Avec plaisir.
Tchic-tchac, zig-zag, cric-crac, slish-slash. La peau était si tendre que la coupe était nette. Enfants et noix coagulés et frais. Les guerriers avaient des racines millénaires et le ciel, une chevelure ondulant dans le souffle des amphibies. Il fallait fermer les portes. Pepito, Manolito, Enriquito, Eduardito, Jaimito, Emilito. Lorsqu'elles deviendront folles, les mères voudront construire une manufacture de chapeaux de porphyre, mais jamais elles ne pourront par cette cruauté atténuer la tendresse de leur sein dégorgé. Ils roulaient les tapis. Le dard de l'abeille permettait le maniement de l'épée. Il fallait que craquent les eaux et que se rompent les barrages des fleuves. Un bassinet, c'était tout. Mais un bassinet qui ne craigne pas le flux interminable, celui qui doit retentir 3 jours durant. Il grimpait en haut des tours et descendait vers les colimaçons. Une lumière de clinique enfin l'emporta sur la lumière poisseuse de l'hôpital. On pouvait opérer en toute sécurité. Chloroforme et violette, coton et argent d'un autre monde. Entrez maintenant. Des individus se jettent des tours dans les cours et d'autres désespérés se percent de punaises les genoux. La lumière du matin était coupante et le vent huileux permettait la blessure la plus inattendue. Jorgito, Alvarito, Guillermito, Leopoldito, Julito, Joseito, Luisito. Innocent. L'acier a besoin de feu pour créer les nébuleuses. Alors voyons la lame infatigable. Mieux vaut être méduse et flotter qu'être enfant. Jubilante décollation. Fonction logique du sang sans soleil qui saigne ses murs. Ils arrivaient par les rues les plus lointaines. Un petit pied dans la gueule de chacun des chiens. Le pianiste fou ramassait des ongles rosés pour fabriquer un piano sans émotion, et les troupeaux bêlaient, le cou tranché. Il faut avoir de cent fils et les livrer à la décollation. Ce n'est qu'ainsi que pourra advenir l'autonomie du lys sauvage. Venez, venez, voici mon fils si tendre, mon fils au cou facile. Sur le palier, en haut de l'escalier, tu l'égorgeras facilement. Certains disent qu'on est sur le point d'inventer le couteau électrique pour ranimer l'opération. Vous souvenez-vous du rossignol menu aux deux pattes brisées? Il se trouvait parmi les insectes, créateurs des frissons et des filets de salive, pointe d'aiguille, et raie d'araignée sur les constellations. Que c'est drôle de penser combien l'eau est froide. Eau froide sur les sables, ciel froid et d'eau de caïman. Ici, dans les rues, s'écoule le plus secret, le plus savoureux qui teinte les dents et fait pâlir les ongles. Sang, de toute la force de son S. Si nous méditons et sommes emplis de piété véritable, nous verrons la décollation comme l'une des grandes œuvres de miséricorde. Miséricorde du sang aveugle qui veut suivre la loi de sa nature et se jeter dans la mer. Il n'y eut pas même un cri. Le chef des Hébreux traversa la place pour calmer la foule. À 6 heures de l'après-midi, il ne restait que 6 têtes d'enfants à trancher. Les sabliers saignaient encore, mais toutes les blessures avaient séché. Tout le sang était déjà cristallisé lorsque commencèrent à surgir les flambeaux. Plus jamais n'aura lieu sur terre une nuit pareille. Nuit de cristal et petites mains gelées. Les seins s'emplissaient d'un lait inutile. Le lait maternel et la lune luttèrent vaillamment contre le sang victorieux. mais le sang s'était déjà emparé des marbres et y rivait ses dernières racines démentes.
Merci beaucoup. Je vois Marie-Laure Bernadac qui opine et qui repère des liens sémantiques entre Picasso et Lorca.
Il y a quand même quelque chose d'assez proche, forcément. Oui. Non, c'est très intéressant.
Beaucoup de répétitions aussi.
Des thèmes. Les énumérations, la répétition, les listes comme ça, les listes de noms. Il y a plein de poèmes de Picasso, il y a des listes de noms comme ça en espagnol. Et le sang, là, nous on avait la sauce de l'encre, mais chez Picasso c'est le sang et l'encre et c'est la peinture. Hein. Mais vous avez bien fait de relever la bande des rilles et des piques parce que oui, c'est vrai que c'est très présent aussi.
Sur ce motif de décollation des innocents, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il va travailler beaucoup de récits chrétiens aussi hein, dans le reste de ce recueil. Mais je pensais à celui-ci en particulier et à la cruauté qui travaille ce texte-là et qui en travaille d'autres qu'on trouve dans le titre aussi que vous avez choisi hein, dans cet oxymore, une colombe si cruelle. Au fond, de quel secours pourrait être la cruauté pour la poésie de Lorca?
Alors, Lorca n'est pas cruel. Lorca dénonce une forme de cruauté. Et si on pense à cette colombe si cruelle, elle peut avoir de nombreuses interprétations. L'une d'entre elles étant qu'il s'agirait de la femme qui lui a volé l'amour de sa vie, qui s'appelait Eleanor Dove, et qui était anglaise. Et Dove, en anglais, signifie colombe. Cette colombe si cruelle, eh bien, un oxymore, vous l'avez dit, c'est également le poids de l'écriture. C'est l'écriture qui n'est pas un acte douloureux, mais qui, dans sa réception, parfois peut l'être. Vous avez dit que je ne voulais pas parler du romancero gitano. C'est pas simplement moi.
J'ai pas dit ça tout à fait. Hein, ouais.
C'est Lorca qui, au moment où il écrit ces textes en prose, les six canoniques, disons, qu'il a lui-même nommé poèmes en prose, écrit dans des lettres qu'il en a assez qu'on l'associe au poète des gitans. Il en a assez de ce mythe gitan, que les gitans, en fait, ne sont qu'une thématique, et qu'il pourrait écrire à propos d'aiguilles, par exemple. Et il le fait brillamment ici.
Alors, je n'ai pas tout à fait dit, Carole Filière, que vous ne vouliez pas en parler. C'est simplement le fait d'avoir choisi de rassembler alors ces six poèmes en prose, effectivement, et d'autres textes en prose, qui ne sont pas seulement un moment, c'est-à-dire que ça n'est pas une rupture chronologique dans l'œuvre de Lorca. C'est presque une rupture parallèle, hein, en fait, à son œuvre, puisqu'il revient à la prose. Les premiers textes, là, sont de 1920, 1921.
Les années 20, mais il écrivait en prose avant ça. Voilà, les textes de jeunesse, ce qu'on trouve dans les mystiques, ce sont des titres qu'il donnait, ou les états sentimentaux, ce sont des poèmes en prose directement inspirés de Novalis, dont vous parliez la semaine dernière, hein, de ses hymnes à la nuit et du rêve romantique, dont il écrivait également des dialogues en prose, puisque l'influence de la lecture des dialogues platoniciens est très forte. Donc en fait, ce que je cherchais à montrer, enfin je cherche toujours à le montrer d'ailleurs, c'est que c'est le laboratoire de la prose, c'est un laboratoire continu. Certains critiques voient une rupture dans ces textes, notamment quand on les associe au surréalisme, et c'est une association trop rapide, hein, puisque Lorca disait que, attention, ce ne sont pas des textes surréalistes. La logique poétique les gouverne. Donc j'ai cherché à montrer que la prose est le lieu privilégié de l'expérimentation, de la transgression, de la fusion, en fait, chez Lorca.
C'est ce qui expliquerait que, au fond, ils étaient assez peu. Alors, les poèmes en prose avaient déjà été traduits. Là, il y a quelques textes inédits dans ce que vous proposez, mais globalement, c'est vrai que ce sont des textes qui ont moins circulé, qu'on a moins vus. Est-ce que ça veut dire qu'ils collent moins à la construction aussi du mythe Lorca, alors que ce soit le poète des gitans ou le poète assassiné ou éventuellement le poète surréaliste?
Ce qui est intéressant avec Lorca, c'est que chacun a son Lorca. Pour Picasso, c'est la même chose. On choisit, de par ses affinités, le Lorca qui nous parle le plus. Et les premiers traducteurs ont bien fonctionné comme ça aussi, même si certains ont traduit pratiquement l'intégralité. Oui, ce sont des textes qui sont moins connus en France, c'est certain. C'est également lié à quelque chose qui est... La critique aussi s'est très peu intéressée jusqu'à récemment aux proses avant-gardistes. espagnol. Comme si c'était un petit moment de folie dans les revues où tout le monde se mettait à écrire des proses parce que c'était aussi à la mode et parce que le vers était ennuyeux et que c'était facile d'écrire en vers une fois qu'on avait la formule, hein, finalement. On recommence à s'intéresser à ces proses-là et quand on parle de prose chez Lorca, on va s'intéresser à son théâtre. C'est évident. On va aussi parler de Poeta à New York, le poète à New York où la prose Amant assassiné, l'un des textes que j'ai traduit, et selon Lorca, fait partie d'une des sections de Poète à New York, alors que les autres poèmes ont une structure différente où le vers libre est beaucoup plus important. Donc la prose est reléguée un petit peu à... c'est un moment de crise amoureuse, voilà, il est passé par là, il s'en sort très bien, c'est pas le cas.
Quand vous dites à chacun le sien de Lorca, quel serait le vôtre, Carole Filière?
Je ne sais pas encore, en fait, parce que c'est ça qui est merveilleux avec Lorca, c'est que il y a une forme d'éblouissement et de résistance. C'est ce que je ressens, moi. Je suis éblouie par ces textes, je suis surprise constamment par la variété de ces textes. Je suis ravie de ne pas tout comprendre, aussi. Et ça a aussi informé mon travail comme traductrice.
C'est ce que j'allais vous dire, oui. C'est une phrase compliquée pour une traductrice.
Oui. En même temps, je suis les ordres du poète, hein, qui disait, il a écrit plusieurs fois un poème, on ne le comprend pas à la première lecture, et puis oubliez votre appareil critique, oubliez, laissez tomber votre intelligence, il ne faut pas comprendre le poème. C'est vrai qu'en tant que traductrice, ce que je cherche à faire, c'est de retrouver les diverses interprétations possibles du poème. Et là, en fait, je touche au cœur, je pense, de ce que lui voulait faire dans sa poésie, puisque la poésie, pour lui, est une interprétation du réel. C'est une expression d'une interprétation, en fait. Et c'est exactement, pour moi, une des définitions de la traduction.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander, justement, parce que dans le dernier texte, alors je pense, hélas, on n'aura pas le temps d'écouter cette archive, c'était Prévert, 10 ans, un texte de Lorca, mais je mettrai un lien pour qu'on puisse l'écouter. Mais dans le dernier texte du recueil, Lorca écrit « S'il est vrai que Dieu ou le diable m'a fait poète, il est aussi vrai que je le suis par la grâce de la technique et de l'effort, et parce que je me rends absolument compte de ce qu'est un poème. » Qu'est-ce que c'est qu'un poème, alors, pour
justement,
Lorca?
C'est
exactement ce que dit ce texte.
Il ne le dira pas. Voilà, c'est à nous, en fait. Il nous demande aussi de terminer ces textes, de les compléter, de les lire. S'il vous plaît, pitié, terminez pour moi ce poème, écrit-il dans l'un des textes que j'ai traduit.
Parce que dans ce même texte, il dit « Mais que vais-je dire, moi, de la poésie? Que vais-je dire de ces nuages, de ce ciel? Regardez, regardez, les regarder, le regarder et rien d'autre. » Tu comprendras qu'un poète ne peut rien dire de la poésie, laisse ça aux critiques et aux professeurs. Mais ni toi, ni moi, ni aucun poète ne savons ce qu'est la poésie.
Oui.
Ah, c'est magnifique.
Picasso disait la même chose, aussi bien pour la poésie que pour la peinture. S'il savait...
Peut-être que certains des textes lui sont parvenus, ça serait intéressant de creuser cette histoire des textes. Parce qu'on sait que Dali les avait, ces textes, la plupart ont été, des textes qui ont été publiés dans des revues pour les grands poèmes en prose, et d'autres sont confidentiels, bien évidemment, ils sont dans les archives et ont été divulgués plus tardivement. Mais peut-être que les poèmes en prose, oui, Dali a pu les transmettre.
Carole Filière, Marie-Laure Bernadac et Androula Michael, merci à toutes les trois. Le détail des actualités des invités du jour, c'est sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann, à la réalisation François Connac et à la préparation Thierry Beauchamp. À vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.